Bonjour à tous. C'est pour moi un très grand plaisir que de présenter ce soir à la librairie Mola deux amis, Caroline Le Mao, qui a quitté les parlementaires pour s'intéresser désormais aux rivages maritimes et plus particulièrement ce soir aux villes portuaires, et Bruno Marnot, qui a enseigné pendant de longues années à l'université Bordeaux-Montaigne avant de malheureusement partir pour d'autres rivages, et en l'occurrence pour ceux de la Saintonge et de La Rochelle. Voilà, je leur ai confié donc cette histoire des villes portuaires maritimes dans la France moderne en deux volumes aux éditions Armand Collin. Et première question en quelque sorte naturelle, comment définir une ville portuaire maritime à l'époque moderne et à l'époque contemporaine, et en quoi se distingue-t-elle d'une ville de l'intérieur? Alors, Caroline, peut-être d'abord.
Oui. Alors, une ville portuaire maritime, comment la définir, comment la distinguer des villes de l'intérieur? On a déjà toute une problématique qui, de toute façon, est commune entre ces villes maritimes et ces villes de l'intérieur. Le problème s'est toujours posé de savoir comment, déjà, on définissait une ville. Et finalement, le critère démographique, le chiffre de la population, eh bien, c'est, alors que c'est le plus familier pour nous, c'est finalement un critère qui s'est imposé relativement tardivement, notamment parce que c'était un problème de seuil, c'est-à-dire à partir de combien d'habitants est-ce qu'on peut considérer qu'on a affaire à une ville. La question se posait à l'époque moderne, mais il y a aussi, bien sûr, à l'époque, bien d'autres manières de définir une ville. Une ville, c'est d'abord un paysage, des maisons agglomérées, et à l'époque moderne, des maisons agglomérées fermées de murailles. Et en l'occurrence, les villes portuaires maritimes, en raison du risque auquel elles sont exposées, sont plus durablement que les autres des villes fermées de murailles. Une ville, ça se définit aussi par ses fonctions. Et c'est là qu'on commence à différencier très nettement les villes de l'intérieur des villes portuaires maritimes. Les villes portuaires maritimes, elles ont des fonctions plus strictement liées à la mer. Je pense par exemple à la construction navale, à la pêche par exemple, pour un certain nombre d'entre elles. Et puis, une ville maritime, ça va être aussi tout un tas de choses dont on va reparler par la suite. C'est un certain type de culture, c'est une ouverture à l'extérieur, c'est aussi évidemment un rapport à la mer qui imprègne littéralement la vie de tous les jours, ne serait-ce que sur le plan déjà des impressions. C'est le rythme de la marée, c'est l'odeur des embruns, c'est tous ces éléments-là qui influent considérablement sur le ressenti de cette ville.
Oui, je vais prolonger la réflexion de Caroline Le Mao. Ce qui évidemment distingue une ville portuaire maritime, c'est évidemment le poids de la mer, la présence de la mer, même quand cette mer est parfois un peu loin, hein, puisque on peut dire de Rouen que c'est une ville portuaire maritime parce qu'elle est imprégnée de longue date et jusqu'à aujourd'hui, hein, par les activités maritimes. Ce qui induit évidemment une sociologie particulière, hein. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est effectivement aussi une culture. Alors aujourd'hui, il y a un concept à la mode chez les géographes, c'est celui de maritimité. Donc voilà, c'est-à-dire la présence de la mer, alors une présence soit réelle, comme dans un certain nombre de villes portuaires, encore comme par exemple comme au Havre, mais aussi une présence fantasmée, hein, c'est-à-dire que cela renvoie à tout un imaginaire qui continue d'animer les habitants de ces villes.
Alors, quels sont les points communs, les continuités entre les deux périodes? Quels sont, au contraire, qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui distingue la ville portuaire à l'époque moderne et celle à l'époque contemporaine, puisqu'il y a deux volumes avec une coupure au moment de la Révolution? Est-ce que, d'ailleurs, la Révolution est une profonde coupure, hein? Ce sont des points qui me semblent être importants et qu'il faut aborder maintenant.
Alors, Je pense que si on parle de continuité entre les deux périodes, c'est évidemment la prégnance de l'activité portuaire. Ça, c'est certain. Ce sont aussi des catégories socio-professionnelles que l'on retrouve entre le 17e, 18e, 19e, 20e siècle, que ce soit les négociants, les armateurs, les ouvriers aussi des quais. Alors même si évidemment ces métiers se transforment, mais il y a une continuité évidente. Il y a aussi une continuité architecturale, hein, puisque encore aujourd'hui, on peut le voir à travers les quais, il y a toujours un bâti ancien qui est là, qui a d'ailleurs été remise en valeur, hein, à la faveur des projets urbains lancés depuis une trentaine d'années, alors avec des chronologies différentes selon les villes. Est-ce que la Révolution française constitue un moment de rupture? Je pense que la véritable rupture, elle est plus tardive. Aller plutôt vers les années 1840, c'est-à-dire à partir du moment où s'esquisse ce qu'on va appeler la mondialisation du 19e siècle, et où là, on assiste à un début de transformation profonde des ports, transformation morphologique, transformation économique, et qui conduit les ports à s'échapper progressivement du site initial. En revanche, il est vrai que la période des guerres révolutionnaires et impériales a constitué un moment décisif dans, j'allais dire, un trend séculaire, hein, du XVIIIe siècle, qui avait vu émerger ce qu'on appelait une économie atlantique, hein, et qui a été brutalement interrompu avec ces guerres. Et ce cycle n'est jamais revenu. Hein. Si on prend par exemple le cas de Bordeaux, Bordeaux, c'est un grand entrepôt international à la veille de la Révolution française, et ce n'est plus le cas par la suite.
Alors, je rejoins évidemment Bruno sur cette thématique des continuités et des ruptures. Les continuités, on les voit très nettement sur la question des activités. Durablement, les villes portuaires maritimes, ce sont des villes qui sont intrinsèquement liées aux échanges commerciaux. Échanges commerciaux qu'il faut entrevoir sur toute leur gamme, puisque l'échange commercial, ça commence tout simplement par assurer le ravitaillement d'une ville portuaire maritime. Et là, je crois aussi qu'on a, du moins sur l'époque moderne, une continuité forte et aussi un point de distinction entre ces villes portuaires maritimes et les villes de l'intérieur. C'est que les villes portuaires maritimes sont des villes qui, plus que celles de l'intérieur, mangent à leur faim. Et sous l'Ancien Régime, évidemment, c'est une donnée essentielle, puisque le port, même si les récoltes de l'arrière-pays ont été mauvaises, eh bien, le port permet de s'approvisionner à l'étranger, de faire venir des grains. Mais le port, c'est aussi le petit cabotage, le grand cabotage, ce qui assure à ces villes portuaires maritimes une ouverture sur le monde extérieur. Et là encore, on a, je crois, un trait caractéristique de ces villes portuaires maritimes, c'est leur culture matérielle. Une culture matérielle qui se voit notamment dans le domaine de l'alimentation, puisque ce sont des villes qui sont beaucoup plus sensibles et du moins beaucoup plus rapidement en contact avec toutes les nouveautés alimentaires qu'on voit à l'époque moderne. Ce sont des villes, par exemple, qui, plutôt que les autres, connaissent les denrées exotiques. Le chocolat, le thé, le café, les oranges, les citrons, pour ne citer que les choses les plus connues, des éléments qui, de surcroît, assurent leur originalité. Et ça, c'est un trait qui persiste durablement. Ce qui assure leur originalité, c'est que ces produits exotiques, bien sûr, ils sont là très tôt dans les villes portuaires maritimes, mais ils sont aussi accessibles à une plus large frange de la société, pour une raison simple, c'est que ces populations portuaires maritimes, elles peuvent bénéficier, je dirais, de marchandises en quelque sorte de seconde catégorie. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie de la cargaison qui se perd ou qui risque de se perdre, qui de fait est vendue beaucoup moins cher, et ça assure une diffusion dans des catégories populaires. Et ça, je crois que c'est un trait qui mérite d'être souligné. Alors cet exotisme, il n'est pas qu'alimentaire, et là encore, c'est quelque chose qu'on perçoit durablement dans le temps, c'est un exotisme des intérieurs. C'est dans les villes portuaires maritimes, par exemple, que l'on trouve les bois exotiques qui, évidemment, donneront lieu aussi à ce qu'on a pu appeler à l'époque moderne le mobilier de port, dont on connaît de très, très beaux exemples à Bordeaux. Il suffit d'aller faire un tour au musée des arts décoratifs où on en aura de magnifiques exemplaires. Et je crois que cette culture matériel des villes portuaires est un trait caractéristique et durable. Alors après, en termes toujours de permanence et de rupture, Bruno l'a très bien dit, les villes portuaires maritimes, c'est une sociologie particulière. On a dans ces villes-là, et c'est lié bien sûr aux activités économiques, des groupes sociaux professionnels qu'on trouvera beaucoup moins dans les villes de l'intérieur. Alors on pense très spontanément aux pêcheurs, par exemple. Vous avez là le cas des villes portuaires maritimes bretonnes qui est tout à fait significatif. Et ça, c'est un trait qui va être durablement significatif dans les villes, aussi bien de l'époque moderne que de l'époque contemporaine. Mais en même temps, je crois que sociologiquement, alors là, Bruno confirmera ou pas, il y a des groupes qui sont très caractéristiques à l'époque moderne et cette figure-là s'efface. Je pense à un cas particulier ici, c'est la fameuse figure du négociant. Le négociant, c'est-à-dire ce qui pratique le commerce de gros, le commerce international et en même temps un certain nombre d'autres activités. Ce négociant, il apparaît littéralement dans les villes portuaires maritimes à la fin du XVIIe siècle. Et c'est le personnage clé du XVIIIe siècle. Alors il me semble qu'ensuite, ce groupe-là s'efface ou se transforme, en tout
cas.
Oui,
c'est selon les cas, c'est vrai qu'il il tend à s'effacer ou à se transformer, parce que tout simplement, on passe dans une économie où les échanges s'intensifient. On voit apparaître dans la deuxième moitié du XIXe siècle de grandes compagnies, alors des grandes compagnies maritimes dans le domaine du transport, hein, des passagers, bien évidemment, mais aussi dans le domaine du négoce, ce qui fait que vous avez là des négoces qui sont obligés de s'adapter. Alors vous avez des dynasties qui disparaissent, puis d'autres qui s'adaptent et qui changent de dimension au niveau entrepreneurial. C'est vrai que et d'ailleurs c'est un petit peu la même chose aussi pour les armateurs. On assiste à peu près à la même évolution. Et d'ailleurs, les professions de négociants d'armateurs sont de plus en plus distinctes. Puisqu'on parle des continuités aussi, je voulais aborder un autre cas qui est intéressant, et on l'aborde tous les deux dans notre livre sans s'être concerté d'ailleurs, c'est celui des ports arsenaux. Parce que là, on a un autre type de ville portuaire marquée, évidemment, alors là par un autre type d'activité, qui est la construction de navires de guerre, et avec une autre sociologie. Là, le poids du négoce est beaucoup moins important, et au contraire, le poids de la marine, de la marine militaire, l'est davantage. Donc là, c'est une particularité de ces ports. Particularité qu'on peut retrouver aussi, pas toujours, mais qu'on peut retrouver parfois dans le tracé urbanistique. Le cas peut-être le plus symptomatique, c'est celui de Rochefort, qui est vraiment une ville construite au cordeau. Mais c'est vrai que... c'est vrai que l'activité commerciale de ces ports arsenaux qui est importante à l'époque moderne, va tendre à diminuer, même s'il y a des tentatives de relance, comme à Brest, par exemple.
Et ton, Martin Danton.
Un mot sur les ports Arsenault.
Un mot sur les ports Arsenault, alors, vaste sujet qui me passionne pour ceux qui me connaissent. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Bruno. Les ports Arsenault nécessitent d'être traités, ou du moins, ça m'est apparu à plusieurs reprises, d'être traités à part, parce que ce sont des villes qui obéissent à des logiques très différentes. D'abord, elles n'ont pas les mêmes rythmes. La plupart des villes portuaires maritimes, si on cherche à parler de conjoncture pour les villes portuaires maritimes en général, on pense assez spontanément à la conjoncture commerciale. Et si on veut comprendre leur dynamisme et leur essor, ça va être lié aux questions commerciales. Pour comprendre les Arsenault, eh bien, tout simplement, il faut suivre la politique navale française et les grands cycles de guerre. Mais je dirais presque plus encore que les cycles de guerre, la politique navale française, parce que tout dépend du rôle qui va être dévolu à la marine dans les périodes de conflit. Et l'autre point qui oppose, à partir de là, les Arsenault à des villes portuaires maritimes classiques, c'est que, à l'époque moderne en tout cas, les Arsenault, de fait, en termes d'équipement, ont une avance considérable. Tout simplement parce que bien, c'est l'État qui finance les équipements, alors que lorsqu'on cherche dans les villes portuaires commerciales, aussi grandes soient-elles, je pense évidemment à Bordeaux, eh bien on peine tout simplement, et on est même étonné, on peine à trouver ce qu'on pourrait qualifier d'équipements portuaires. C'est-à-dire que Bordeaux, par exemple, a été capable d'assurer un très grand commerce colonial avec des infrastructures portuaires extrêmement limitées. Vous ne trouvez pas de grues, enfin de matériel de déchargement comme on pourrait s'y attendre. Alors que dès qu'on observe les Arsenault, on s'aperçoit qu'on a des quais en dur très précocement et puis très, très solidement construits. On a des fameuses machines à curer le port pour éviter l'envasement. On a des pompes anti-incendie très tôt, dès la fin du XVIIe siècle. Donc là, on a vraiment, je trouve, dans les villes Arsenault, des logiques très, très différentes.
Oui, il y a une avance technologique des ports Arsenault à l'époque moderne sur les ports de commerce qui est flagrante. Comparé aussi, par exemple, Toulon par rapport à Marseille, c'est assez remarquable. Et ça, évidemment, ça change au XIXe siècle. Ça change, puisque à partir des années 1840, alors je parle du cas français, si on parlait du cas anglais, ça serait différent. Mais à partir des années 1840, là, on assiste au contraire à des transformations profondes des équipements portuaires, que ce soit les infrastructures. C'est-à-dire qu'on parle des infrastructures, ce sont les bassins, ce sont les quais, les terre-pleins, mais aussi transformation dans l'outillage, puisque là, l'outillage dévolu au transbordement, les entrepôts, puis par la suite les hangars, l'installation des voies ferrées sur les quais, etc. Évidemment, s'amoncelle sur ces espaces.
Alors, il y a un autre aspect aussi, mais là, je pense que c'est toi qui seras plus à même de répondre, qui me semblait, moi, une différence assez majeure entre l'époque moderne et l'époque contemporaine, même s'il y a des discontinuités, des ruptures, notamment dans le paysage urbain, avec la question d'un rempart, je pense qu'on y reviendra. Mais moi, j'ai le sentiment qu'à l'époque moderne, on a une ville qui est en symbiose avec son port, avec notamment le port qui est au cœur de la ville. Ça se voit très bien à Bordeaux. Il suffit de s'imaginer que l'activité portuaire au XVIIIe siècle, elle se fait là où est aujourd'hui la place de la Bourse. Il me semble que ce lien se distend plus on avance dans le temps.
Oui, tout à fait. La caractéristique majeure des villes portuaires à l'époque contemporaine, c'est évidemment ce divorce spatial entre le territoire portuaire et le territoire urbain. Et un divorce spatial qui ne fait que s'accentuer au fil du temps. Et j'aime beaucoup, c'est une expression que j'utilisais souvent dans mon livre, je crois, peut-être trop, une expression d'un collègue marseillais, René Berouet, pour ne pas le nommer, qui dit que le port est en avance d'une échelle par rapport à la ville. Et c'est vrai que, quelque part, la ville est obligée de courir après le port pour éviter ce détachement, alors pour des raisons à la fois économiques, fiscales. Mais au bout du compte, c'est vrai que ce détachement est presque irrésistible.
Alors, vous avez commencé tous les deux à parler d'espace. On va s'intéresser peut-être à un point névralgique de la ville portuaire. Ça peut être le quai, ça peut être les quartiers portuaires. C'est vrai qu'il y a une typicité. On pense au quartier Saint-Michel à Bordeaux. On pense au quartier de pêcheurs, par exemple, au Paulet à Dieppe, à ce type de quartier qui ont vraiment une spécificité. Est-ce que vous pourriez un petit peu en dire un peu plus ?
Alors, pour ma part, c'est vrai que je serais tentée d'évoquer d'abord les quais. Donc, pour une raison simple, c'est que quand vous regardez les tableaux du XVIIIe siècle qui représentent les villes portuaires, qu'il s'agisse des tableaux, qu'il s'agisse des gravures, elles sont très généralement centrées sur les quais. Et le sentiment qu'on a, c'est que le quai, c'est un monde qui grouille. Et ce sentiment, il est confirmé par tous les voyageurs. Et là, vous avez de très belles choses, si le sujet vous intéresse, à lire dans tous les récits de voyage. D'abord, le port est un point de passage obligé, parce que c'est généralement par là qu'arrivent les voyageurs, ce qui nous vaut un grand nombre de descriptions de ces espaces. Et il y a, sous la plume notamment de voyageurs étrangers, des descriptions absolument passionnantes, par exemple du port de Marseille, où on vous explique que c'est un port qui grouille d'activité. Alors, on a le sentiment que tout s'agite, et au point même de causer des accidents, parfois pour des raisons d'encombrement. Et cet encombrement des quais, on en a l'écho cette fois-ci dans les sources administratives, parce que le problème, c'est évidemment de gérer ça au mieux pour des raisons d'efficacité commerciale. Ce monde des quais, c'est le monde du travail, bien sûr, c'est le monde au XVIIIe siècle de ceux qu'on appelle les portefaix, puisque, comme je vous l'ai dit, étant donné qu'il y a très peu d'infrastructures, eh bien, il y a une grande partie du travail qui se fait à dos d'homme, ne serait-ce que le déchargement des vaisseaux. C'est le monde du savoir-faire, et je renvoie ici à la description de Sophie de la Roche, qui raconte comment on déchargeait les tonneaux de vin et comment, de façon très habile, il les faisait rouler et remonter ensuite sur d'autres bâtiments simplement à l'aide d'une planche, en fait, qui permettait de faire rouler les tonneaux à bord des bâtiments. Ce monde des quais, cependant, ça n'est pas qu'un monde de travail, puisqu'il suffit pour s'en convaincre de regarder justement toujours ces gravures où on voit quelques élégantes, quelques chaises à porteurs sur ces quais. Alors, ça n'est pas qu'une fantaisie de l'artiste. Il y a un spectacle du port. Un spectacle du port auquel les élites sont sensibles. Et là encore, on en a une confirmation dans le regard des voyageurs pour lesquels la promenade sur le port et puis même la petite excursion en bateau, finalement, les touristes d'aujourd'hui n'ont rien inventé. La promenade en bateau sur le long des quais fait partie des distractions des touristes. Et ce monde du port est donc un monde extrêmement riche et qui donne en quelque sorte une vision en réduction de tous les enjeux des villes portuaires maritimes.
Oui, ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve à l'époque contemporaine, au moins jusqu'aux années 60-70 du XXe siècle. C'est-à-dire effectivement une vie grouillante, où il y a aussi une multitude de populations qui viennent d'horizons très divers. Hein, d'horizons très divers. À partir de la fin du XIXe siècle, ce ne sont plus les portefaix qui incarnent le travail de manutention, ce sont les dockers. Hein. Originellement, les dockers, c'est ceux qui travaillaient dans les docks entrepôts, à l'anglaise. Hein. Et puis, ce terme se généralise pour parler de tous les ouvriers de la manutention. Et ces dockers, évidemment, c'est un groupe socioprofessionnel qui a une identité extrêmement forte. Qui sont eux-mêmes l'objet de représentations picturales, de sculptures, de représentations littéraires, parce que c'était un groupe qui marquait vraiment très fortement de son empreinte le monde des quais. Ces quartiers portuaires sont très vivants jusqu'aux années 1960-70, parce que ce sont des quartiers populaires. On y rencontre alors effectivement des dockers, des pêcheurs, avec d'ailleurs pas forcément quand on fait des analyses sociologiques assez fines des lieux de résidence qui ne sont pas forcément les mêmes, on y trouve aussi des ouvriers. Les villes portuaires, à partir du milieu du 19e siècle, sont des villes qui sont des villes de plus en plus ouvrières parce que l'industrie lourde arrive à proximité des quais. Alors évidemment, il y a, c'est ce que je dis un peu dans mon livre, ces quartiers portuaires, c'est à la fois l'enfer et le paradis. C'est l'enfer parce que on voit arriver des articles du monde entier ou qui partent vers le monde entier avec des couleurs chatoyantes, des odeurs particulières, et ça reste aussi un lieu de promenade. Et puis c'est aussi l'enfer, parce que ces quartiers portuaires, c'est aussi un des lieux que l'on désigne comme les bas-fonds. Hein, c'est le lieu, c'est quand même le lieu où se concentre dans les villes portuaires le plus de débit de boissons. Hein. Il y a des études absolument remarquables. Dans le quartier, par exemple, Saint-François et quartier Saint-François Notre-Dame du Havre, qui sont le cœur de la vie portuaire au Havre, fin 19e, début 20e siècle. Il y a une concentration de débit de boissons qui est absolument incroyable. Dans une des rues du quartier Saint-François, il y a à peu près un numéro sur deux est un débit de boissons. S'y retrouvent les dockers, les marins, évidemment, qui font partie de cette sociologie des quais. Et puis c'est aussi évidemment un lieu où se concentre l'activité de prostitution. Hein. Il y a cette très belle phrase de Julien Gracq à propos de Nantes quand il parle du quai de la Fosse, où il dit « Je sentais là un des points d'inflammation de la ville ».
Oui, ce que tu dis est très intéressant, parce que évidemment aussi déjà à l'époque moderne, le cabaret est un lieu central de l'activité portuaire maritime. Alors il y a évidemment tout ce qu'on connaît, tout ce que ça peut susciter aussi de problèmes, mais ce qu'il faut entrevoir aussi, c'est que le cabaret joue professionnellement un rôle essentiel. Le cabaret, c'est là où le marin vient en quelque sorte prendre le pouls du marché de l'emploi, pour dire les choses, c'est-à-dire que c'est là qu'il va trouver un embarquement, c'est là que les capitaines aussi vont aller démarcher, et c'est un lieu d'information sur le marché de l'emploi, d'abord savoir ce qui est disponible, mais aussi à l'époque moderne, eh bien, quand on veut s'embarquer, on se renseigne certes sur la solde, mais on se renseigne aussi pour savoir si le capitaine est fiable, si l'alimentation à bord va être décente, en gros, si ça va bien se passer. Et à l'inverse, le capitaine, lui, va se renseigner sur l'équipage qu'il entend recruter, savoir si le marin est querelleur, si c'est quelqu'un de fiable, etc. Donc, il y a aussi le côté professionnel du cabaret. C'est le lieu où vont se conclure les contrats. Alors, pas sous forme signée, ou du moins pas toujours. Ça progresse. Mais souvent, il y a tout un tas de rituels qui accompagne cet engagement du marin. Et la question du quartier portuaire est assez intéressante, parce que, comme tu l'as dit, Michel, il y a des cas où il y a des quartiers portuaires extrêmement identifiés. Le Pollet à Dieppe et globalement les quartiers de pêcheurs ont une identité très forte. Mais qui dit quartier dit séparation. Alors, je n'irai pas jusqu'à employer le terme de ségrégation, parce que justement, parfois, cette séparation, elle est plus diffuse. Il y a une coloration particulière de certains quartiers où les pêcheurs sont plus représentés, par exemple, où tel et tel métier sont plus représentés. Mais ça a été très bien montré pour Bordeaux, c'est que finalement, il y a toute une nébuleuse. Comment dire, en quelque sorte, le port diffuse dans un certain nombre de rues sans qu'il y ait d'exclusive. C'est-à-dire que dans ces espaces-là, on trouve aussi d'autres activités. Et il faudrait faire la part après de choses là aussi, mais je pense qu'on va y revenir. Ce sont les activités induites par le port, et notamment je pense à toutes les activités de transformation que là on a tendance un petit peu à séparer pour des questions aussi soit de dangerosité, soit de nuisance. Je pense par exemple aux raffineries de sucre qu'on va mettre un peu à part, ou ce qui va être pour la fabrication de l'alcool. Vous comprenez bien qu'évidemment, on évite de mettre au cœur de la ville des lieux où se fabrique, où se brûle de l'alcool, parce que s'il y a le moindre incendie, c'est tout de suite l'explosion, évidemment, c'est tout un quartier qui est détruit. Donc là, il y a aussi un système de logique de quartier dans la répartition des activités.
Vous avez insisté tous les deux sur l'idée que les quais grouillent, qu'effectivement, alors derrière, il y a le thème du cosmopolitisme, du creuset, puisque les ports attirent les étrangers. On sait qu'au Chartron, par exemple, il y a beaucoup d'Anglais, d'Allemands. Il y a un quartier juif important à Bordeaux, du côté de Sainte-Eulalie, pas très loin de la rue Sainte-Catherine actuelle. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser ce cosmopolitisme ?
Alors, le cosmopolitisme des villes portuaires, ça fait partie des traits caractéristiques de ces villes, de cette sensibilité, de cette ouverture à l'étranger. Alors, les étrangers, ils sont plus nettement représentés pour une raison simple, c'est que les villes portuaires maritimes sont les points d'entrée sur le territoire, et que ce sont évidemment des points qui ont des horizons extrêmement vastes. C'est par exemple à l'époque moderne, dans ces villes-là, qu'on trouve des populations étrangères extrêmement peu représentées. C'est par exemple là qu'on trouve l'essentiel de la population noire. Alors, j'exclus évidemment le cas parisien, qui est un petit peu particulier, mais l'essentiel des populations noires présentes sur le territoire français sont dans les villes portuaires maritimes. Alors, il y a un certain nombre de dénombrements, je pense à la veille de la Révolution, qui attestent la présence de ces populations à Bordeaux, à La Rochelle, au Havre. C'est aussi ponctuellement dans les villes portuaires maritimes qu'on trouve des populations musulmanes. Alors là, on est d'accord, on est plutôt sur le littoral méditerranéen, mais on pensera par exemple au cas de Marseille. Et là, il suffit de renvoyer au très beau tableau de Vernet, où vous avez parmi les petits personnages représentés au premier plan des marchands persans et un certain nombre d'habits exotiques. Et c'est le tableau d'ailleurs est tellement populaire qu'on extrait ces parties-là pour les graver en estampes et pour les diffuser beaucoup plus largement. Mais on pensera aussi tantôt à Toulon, tantôt à Marseille, à la présence d'esclaves turcs qui rament sur les galères du roi et qui, de fait, lorsqu'ils ne rament pas sur les galères et sont à terre, sont présents dans ces villes, ce qui amène une coloration évidemment particulière. Alors après, il y a toute l'immigration européenne, et on parlait tout à l'heure de ce fameux groupe des négociants. Les négociants étrangers, pour des raisons professionnelles, se fixent dans les villes portuaires maritimes au point de constituer des communautés. Et là, c'est un phénomène bien connu, mais il faut bien avoir aussi à l'esprit que ce cosmopolitisme induit aussi, de fait, une très grande diversité religieuse qui est plus sensible peut-être dans les villes portuaires maritimes que dans les villes de l'intérieur, et ponctuellement une tolérance supérieure, je crois, qui est liée tout simplement à la reconnaissance de l'intérêt économique de ces populations. Alors, c'est assez sensible, par exemple, pour ce qui est des communautés protestantes. Ça se voit très bien, les protestants hollandais, anglo-saxons sont très bien implantés à Bordeaux, ne sont pas ou très ponctuellement inquiétés. Mais du coup, ça permet aussi à un certain nombre de protestants français d'avoir une vie relativement tranquille dans ces villes portuaires maritimes. On sait que la répression qui survient après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 a été beaucoup moins féroce dans des villes comme Bordeaux. On a un certain nombre de protestants français qui font une carrière commerciale tout à fait honorable, mais on retrouverait aussi des grands noms du négoce protestant à Rouen, au Havre et dans un grand nombre de villes portuaires maritimes. Donc je crois que le lien de ces deux éléments est important à souligner.
Oui, le cosmopolitisme est une, est une empreinte sociologique très forte des villes portuaires, encore à l'époque contemporaine, alors qu'on retrouve d'ailleurs un cosmopolitisme, comme tu l'as dit, qu'on retrouve dans les différentes strates de la société, depuis les travailleurs des quais jusqu'aux élites du négoce et de l'armement. Il y a un phénomène nouveau qui survient au XIXe siècle, c'est celui des migrations de masse transatlantique. Alors c'est vrai que les ports français ne sont pas des grands ports de départ, en tout cas pas aussi importants qu'ont pu l'être Liverpool, Hambourg ou Brême, mais malgré tout, des villes comme Marseille, comme Bordeaux, comme Le Havre. Bordeaux a été à la fin du XIXe siècle, était le deuxième port d'embarquement des migrants, et notamment vers l'Amérique du Sud. Et donc là, évidemment, il y a des afflux considérables de personnes qui viennent de différentes parties de l'Europe, et qui posent d'ailleurs des problèmes d'accueil. Qui pose aussi des problèmes de sécurité. Il y a une législation qui se met en place progressivement en France à partir des années 1850-60 pour protéger ces migrants de tous ceux qui, évidemment, cherchent à leur soutirer de l'argent. Et puis, petit à petit, on met en place des structures d'accueil. Alors, en France, le plus bel exemple, c'est celui de Cherbourg. Dans le début des années 20, Cherbourg devient le grand port des transatlantiques, de départ avec Le Havre vers l'Amérique du Nord. Et là, trois compagnies anglaises ont pris la décision de construire un petit peu sur le modèle de la cité de Berlin à Hambourg, de construire une grande structure d'accueil pour ces migrants. Bon, ça a duré une décennie, puisqu'après les flux se tarissent avec les années 1930. Voilà.
Alors, y a-t-il un urbanisme portuaire ? On a déjà un petit peu évoqué le sujet. On pense bien sûr à Bordeaux, vitrine de l'Atlantique au XVIIIe siècle, mais c'est quelque chose qui se prolonge jusqu'au XXe siècle. On pense au grand projet d'urbanisme de Perret au Havre, par exemple. On a parlé un petit peu des activités induites tout à l'heure. Où sont-elles localisées ? Est-ce qu'elles sont nombreuses ? Dans quel secteur sont-elles particulièrement importantes ? Voilà un petit peu les thèmes qu'on pourrait aborder maintenant et qui sont abordés dans les deux livres.
Alors, l'urbanisme des villes portuaires maritimes, ce qui me semble important de souligner, c'est que, plus encore peut-être que dans les villes de l'intérieur, c'est un urbanisme sous contrainte. Alors, il y a des contraintes qui sont communes à l'ensemble des villes, c'est déjà leur passé. Puisque à l'époque moderne, il y a peu de villes ex nihilo, les villes continuent de grandir et, de fait, comme elles continuent de grandir, eh bien, très vite, leurs murailles sont des carcans. En particulier quand on considère la force de la croissance démographique du XVIIIe siècle. Songez, alors le cas est extrême, mais qu'une ville comme Bordeaux est passée en un petit siècle de 45 000 à 110 000 habitants. Et là, le problème des villes portuaires maritimes, c'est que, alors que les villes de l'intérieur peuvent se passer de leurs murailles, pour une raison simple, c'est que le système de sécurité est rejeté en fait sur les frontières. Eh bien, les villes portuaires maritimes, elles sont sur la frontière. Frontière maritime, certes, mais frontière malgré tout. Et de fait, ce sont des villes qui doivent conserver leur rempart et en quelque sorte à rebours de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il y a même plusieurs villes qui renforcent leurs murailles. Et ça, c'est un problème durable. Ça se voit notamment lorsque vous regardez soit les anciennes gravures de Bordeaux, soit les anciens plans. C'est frappant de voir que la façade sur le port, c'est un mur percé de portes, mais malgré tout un mur qui introduit une rupture entre la berge où se déroule l'activité commerciale et puis l'intérieur de la ville. Donc ça, je pense que c'est un trait fort de ces villes portuaires maritimes. Après, l'autre caractéristique de cet urbanisme, eh bien, c'est, en tout cas dans un certain nombre d'entre elles, les transformations incroyables qui se produisent au XVIIIe siècle. Puisque, et là aussi, on a commencé à l'évoquer, mais les villes portuaires maritimes, en lien avec la forte croissance commerciale, eh bien, connaissent une très forte croissance au XVIIIe siècle, et surtout, cet urbanisme, eh bien, il profite des retombées économique de cette croissance commerciale. Et là, évidemment, Bordeaux est un cas d'école quand on voit la place royale, l'élaboration des quais. C'est un urbanisme en transformation et un urbanisme grandiose qui se met en place. Alors, évidemment, Bordeaux est un cas limite, mais on pensera aussi à toutes les rénovations architecturales, à toutes les transformations que connaît une ville comme Nantes. Marseille connaît aussi une incroyable croissance de son tissu urbain, avec cependant ici un cas un petit peu particulier, et on retrouve un autre type de contrainte pour cet urbanisme des villes portuaires maritimes, c'est le poids ponctuel ou plus récurrent de l'État. L'extension de Marseille, par exemple, a été planifiée et décidée suite à un plan d'urbanisme. Et le cas le plus extrême de cet urbanisme sous contrainte, de cet urbanisme dirigé, ce sont les villes portuaires maritimes. Bruno l'évoquait tout à l'heure, le cas de Rochefort, par exemple, est totalement frappant. C'est celui d'un urbanisme littéralement imposé avec un plan en damier où l'on prévoit l'utilisation de chacune des parcelles, etc. Le problème de cet urbanisme-là, c'est que, ça ne suit pas forcément la volonté royale initiale, et en témoigne par exemple le temps que met Rochefort à se peupler.
Oui, alors concernant cette question de l'urbanisme dans les villes portuaires, je voudrais, dans le prolongement de ce que tu dis, revenir sur trois ou quatre points. Tout d'abord, la question des villes ex nihilo. On a un très bel exemple au XIXe siècle, c'est celui de Saint-Nazaire. Hein, Saint-Nazaire c'est au départ une volonté des Nantais, qui est suivie par l'État, devient l'avant-port de Nantes. Il est préféré à Bourgneuf. Bon. Et puis, par la suite, Saint-Nazaire va s'émanciper complètement de Nantes, au point de devenir même un concurrent. Mais c'est une ville qui est vraiment une création, à part entière. C'est la ville. Les plans sont faits par les ingénieurs des ponts et chaussées. Un urbanisme entièrement tourné vers les quais. Les avenues principales sont tournées vers les quais, ce qui sera d'ailleurs complètement un urbanisme qui disparaîtra complètement avec la reconstruction d'après-guerre. Et puis vous avez aussi des transformations au XIXe siècle dans de grandes villes portuaires. Alors je pense évidemment à Marseille. Marseille, c'est intéressant parce que c'est un laboratoire pour les Saint-Simoniens. Hein. On veut faire de Marseille le point de rencontre entre l'Occident et l'Orient. Et vous avez là des projets immobiliers, je pense notamment à ceux de Jules Mirès, qui veulent magnifier cette fonction du port phocéen. Ce qui est intéressant dans l'histoire de l'urbanisme des villes portuaires à l'époque contemporaine, c'est évidemment la rupture que provoque la Deuxième Guerre mondiale. Parce que vous avez, et plus particulièrement sur la façade atlantique, vous avez un nombre considérable de villes portuaires qui ont été détruites par les bombardements. Des villes qui sont parfois rasées à plus de 80% et qui ont été le laboratoire, qui ont été des véritables laboratoires urbanistiques. Le cas peut-être le plus flagrant, c'est celui du Havre. Le Havre d'aujourd'hui ne ressemble en rien à ce qu'il pouvait être avant la Deuxième Guerre mondiale. On ne retrouve pratiquement plus de traces du Havre d'avant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, dans le livre, j'ai mis... Alors c'est dommage parce qu'il y a un problème de mise en page. J'ai mis donc un plan d'avant-guerre et un plan d'après-guerre pour montrer la différence. Et mon problème, c'est que là, c'est sur deux pages différentes. Et comme ça, on ne peut pas contrôler tout le travail de l'édition. C'est une ville qui a été reconstruite sur des canaux urbanistiques, évidemment, totalement nouveaux. Mais vous retrouvez... Alors, c'est l'exemple de la tabula rasa, la plus évidente. Mais vous avez des expériences du même type poussées de façon moins extrême dans d'autres villes comme Lorient ou Caen, par exemple. Et alors, pour revenir au cas de Saint-Nazaire, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on a reconstruit Saint-Nazaire, on a reconstruit non plus les axes principaux de Saint-Nazaire ne sont plus comme avant-guerre des axes qui débouchent sur les quais, mais des axes qui sont perpendiculaires, qui sont parallèles. C'est-à-dire que là, il y a une volonté de, j'irais presque de tourner le dos à la mer. Alors en plus, à Saint-Nazaire, il y a cette énorme base de sous-marins qui bouche l'horizon. Et pendant longtemps, c'était vécu par les Nazériens comme une véritable verrue dans la ville.
Une dernière question avant les nombreuses questions de la salle, probablement. Donc, ce sont des villes qui attirent et qui attirent en particulier les voyageurs. Depuis le XVIIe siècle, on a de nombreux témoignages. Quelles sont les représentations que les voyageurs ont du port? Les voyageurs, les peintres, on l'a vu aussi un tout petit peu au travers de Vernet. Et comment évoluent ces représentations au fil du temps?
Alors justement, la question est très intéressante et me permet de poursuivre les éléments que donnait Bruno, parce que évidemment, quand on entend aujourd'hui parler et dire que voilà, l'urbanisme de Saint-Nazaire, de Cherbourg, bon, pour dire les choses gentiment, ce ne sont pas forcément les villes qu'on trouverait les plus belles en France aujourd'hui. Et ça interpelle sur la façon qu'avaient notamment les voyageurs du temps, le regard sur l'urbanisme qu'il peut y avoir et sur ce que l'on pouvait apprécier. Et ce que ces voyageurs appréciaient, eh bien, c'était souvent ces villes portuaires maritimes nouvelles. Et vous avez des jugements mais dithyrambiques, dans certains cas, sur des villes comme Rochefort ou Lorient, ce qui évidemment aujourd'hui nous interpelle un tant soit peu, parce que qu'est-ce qu'on aime dans ces villes-là? C'est qu'elles ont des rues larges et propres. Et on oppose ces rues larges et propres aux vieux centres-villes médiévaux, de ruelles étroites, alors évidemment encombrées de tous les détritus qu'on peut imaginer, etc. Et ce contraste est frappant, par exemple, dans une ville comme Marseille, où un voyageur comme Arthur Young, par exemple, va dire que dans certains quartiers, la ville est très belle. Ben oui, forcément, c'est l'extension la plus récente et la plus orthonormée. Et en revanche, va dire, ben non, mais tel quartier est sale et puant, une des termes qu'on retrouve très, très fréquemment sous leur plume. Donc la façon d'apprécier cet urbanisme, évidemment, varie fortement selon les époques. Alors, qu'en est-il de la représentation? Je commencerai par les images, parce que, vous allez le voir, c'est quelque chose qui, évidemment, frappe. Et en soulignant un fait, c'est que, finalement, bon, il existe des représentations au XVIIe siècle, des villes portuaires maritimes, mais que c'est vraiment au XVIIIe siècle que la représentation de cette ville portuaire, elle devient très à la mode, en lien avec un goût pour la représentation des espaces côtiers et enfin des choses maritimes, je vais dire au sens large. Par exemple, les tableaux de Le Lorrain du XVIIe siècle représentent certes des ports, mais des ports fantasmés. Au XVIIIe siècle, en revanche, on va peindre au vrai ces villes portuaires maritimes, et on en a quelques exemples célèbres. C'est la fameuse série des tableaux de Joseph Vernet, Les Vues des Ports de France, une série qui va avoir un succès considérable, non seulement parce que on lui assure toute une publicité, et puis aussi parce qu'elle va être, le succès est tel qu'elle va être déclinée en gravure, en estampes, ce qui lui assure une très grande diffusion. Et puis à la suite de Vernet, il faut mentionner les gravures d'Ozanne, qui reprend exactement le même principe, mais qui démultiplie les vues des ports de France. Et là, on a vraiment une vision assez précise de toutes les villes portuaires maritimes françaises. Et il y a évidemment énormément à tirer justement de cette étude, de ces gravures. On parlait tout à l'heure de l'activité des quais. Là, vous avez sur tous ces tableaux des petites scènes de genre qui sont toutes des mines d'informations. Et ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que ces tableaux, ces vues, et en particulier les tableaux de Vernet, frappent frappe les imaginaires, et notamment frappe les imaginaires des voyageurs qui connaissent ces tableaux. Et ils les connaissent à tel point que lorsqu'ils viennent découvrir la ville, eh bien, d'une certaine manière, en fait, c'est le tableau de Vernet qu'ils cherchent à retrouver. Et c'est assez frappant quand vous croisez le tableau de Vernet, notamment celui de Marseille, et les descriptions faites par les voyageurs, où on voit que la description est en partie conditionnée par ce qu'était le tableau. Et les récits des voyageurs, évidemment, viennent compléter ces vues parce qu'ils nous apportent quelque chose qui est essentiel, c'est la subjectivité. Et c'est assez frappant de voir que sous la plume de l'un ou de l'autre, on n'aura absolument pas le même jugement. Le cas le plus frappant et que vous connaissez sans doute le mieux, c'est celui d'Arthur Jung, qui explique que Bordeaux est une ville fabuleuse, mais que les quais, c'est absolument décevant, c'est une rive boueuse. Et au même moment, vous prendriez un récit de La Rochefoucauld, qui lui, en revanche, est beaucoup plus louangeur et trouve que oui, le port de Bordeaux est vraiment magnifique. Donc c'est dans le croisement de ces différentes sources, et elles sont nombreuses, que l'on arrive à retrouver la vérité, en quelque sorte, de ces villes portuaires maritimes.
Les ports sont énormément représentés. C'est un mouvement qui se poursuit au 19e et au 20e siècle. J'ai d'ailleurs à dessein, dans le passage sur la description des quartiers portuaires, reproduit beaucoup d'extraits de textes littéraires, hein, de témoignages littéraires, parce que je pense que c'est par la littérature que, à certains moments, on sait mieux rendre le mieux possible l'atmosphère de ces quartiers portuaires. La représentation des ports, elle est très abondante en littérature, dans l'iconographie, hein, la peinture, mais aussi la carte postale, je vais y revenir, et puis aussi dans le cinéma. Hein, dans le cinéma. Hein, il y a, dans le cinéma, je pense, un âge d'or de la représentation des villes portuaires, c'est l'entre-deux-guerres. Hein, les années 30 notamment, et même jusqu'aux années 50. Hein, Je repense à ce bel extrait que nous avait passé un collègue lors du colloque sur les régiments des villes portuaires, du film Des gens sans importance, hein, c'est ça, avec Jean Gabin, hein, qui commence par justement une scène qui se déroule sur les quais de Bordeaux. Et donc, j'ai eu l'occasion, au cours d'un séminaire de master, de m'intéresser à la représentation de la prise en compte de la modernisation des ports par les artistes. Alors il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est que pour un certain nombre d'artistes, et c'est un parti pris esthétique, eh bien il y a volontairement une non prise en compte de la transformation des espaces portuaires. C'est-à-dire que, alors même si effectivement, faut le rappeler, la navigation à vapeur se substitue de façon très très progressive, hein, à la navigation à voile. Hein. Mais il y a un parti pris qui est l'héritage de Vernet, quelque part, hein, chez certains peintres, assez tardivement dans le XIXe siècle, de représenter plutôt des voiliers que des navires à vapeur. C'est la forêt de mât, c'est plus esthétique, etc. Bon. Et il y a des tendances. Et puis à côté de ça, vous avez aussi, et je crois que là c'est l'apport de la photographie, hein, il y a aussi la prise en compte de cette modernité chez d'autres. Hein. Vous avez des photographies qui représentent des photographes qui vont très tôt sur les quais. Et qui montre, hein, ces ports en pleine métamorphose. Et il y a même des écoles, si je puis dire, des écoles de photographie, hein, qui se spécialisent dans cette représentation des ports avec des effets de sfumato, etc. À mon avis, c'est là une rupture essentielle, c'est l'arrivée des fauves. C'est l'arrivée des fauves, hein, qui eux, et aussi des cubistes, hein, qui eux vont évidemment, bah oui, mais vous avez aussi par exemple des peintures de Marquet qui sont très belles et qui montrent là, qui montrent effectivement, qui mettent en exergue la modernité des ports. Ces espaces qui sont jonchés de quais, d'entrepôts, et où ils trouvent une certaine esthétique. Et par exemple, ce qui est intéressant dans les tableaux de Marquès, c'est que on a des ports où le bâti, la voie ferrée, le bassin sont mis en évidence. Et pour les mettre en évidence, eh bien, Marquès a éliminé pratiquement toute trace humaine. C'est des espaces où il y a très peu de personnages. Ça, c'est très intéressant. Mais après la Deuxième Guerre mondiale et de nos jours, j'ai l'impression que, mais ça c'est une question, hein, j'ai l'impression que les ports ne sont plus la source d'inspiration qu'ils ont pu être, mais aussi parce que maintenant les ports sont loin des villes, ce sont devenus des espaces fermés, surtout depuis les événements du 11 septembre 2001, et qu'ils ont peut-être perdu ce caractère d'enchantement qu'ils avaient auparavant.
Bien, mais je crois qu'on peut les remercier en les applaudissant.